Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi Michel Terenchko. Terenchenko, vous me pardonnerez si je prononce mal votre patronyme, qui est philosophe, qui a agrégé de philosophie, maître de conférences à l'Université de Reims, et qui est par ailleurs dans son cursus universitaire diplômé de Sciences Po Paris et qui enseigne également à Sciences Po Aix. Pourquoi est-ce que Michel Terenchenko est avec nous? Parce qu'il vient de préfacer et de rééditer un livre tout à fait étonnant de Stanley Milgram, qui est l'expérience sur l'obéissance et la désobéissance à l'autorité. C'est le titre assez long de ce livre, qui présente dans la partie, je veux dire, dans le corps de l'ouvrage, vous voyez que c'est pas très épais, hein, le grand travail qu'a réalisé Stanley Milgram, que Michel Terenchenko va nous présenter dans un instant. Et il y a donc une préface de Michel Terenchenko et puis une postface tout à fait passionnante de Marianne Fazzi, qui est elle-même, c'est ce que dit l'ouvrage, diplômée de l'IOPEDEX, de Sciences Po Aix. L'ouvrage la présente comme étant une étudiante au centre de préparation des concours de Aix, le CEPAG, et qui fait une postface tout à fait passionnante parce qu'elle resitue en quelque sorte l'expérience de Milgram qui se déroule entre 61 et 62 dans son contexte et puis dans ses développements ultérieurs, hein, jusqu'à nous. Alors, bon, je vous ai présenté. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer qui est Milgram, qui va mourir très jeune, finalement, à 51 ans d'une crise cardiaque. Qui est Milgram? Et puis après, on va rentrer dans cette fameuse expérience qui l'a fait, d'une certaine façon, passer à la postérité.
Donc, Milgram est un, au moment où il réalise cette expérience, donc effectivement au début des années, il commence en 61, elle a lieu entre 61 et 62, est un jeune professeur assistant à l'université de Yale, une prestigieuse université américaine. Il est très jeune, il n'a même pas le statut de professeur, il est juste assistant professeur. Il est d'une famille d'origine juive. Ses parents viennent de Hongrie et de Roumanie et ils ont immigré aux États-Unis dans les années 20. Et c'est un élève extrêmement brillant. Il a commencé par faire, mais d'un milieu modeste. Hein. Son père était boulanger.
Son papa était boulanger, c'est ça.
Ouais, voilà. Boulanger. Et sa mère, femme au foyer. Et il a commencé par faire des études extrêmement brillantes et repéré comme un étudiant très brillant. Et il a eu une bourse ensuite donc, pour poursuivre ses études supérieures à l'université de Harvard, mais en sciences politiques. Et puis, comme c'était des études trop abstraites pour lui, il s'est orienté ensuite vers la psychologie sociale. Il a été l'assistant, donc, ce qui explique un peu l'évolution des choses. Par être l'assistant du professeur Salomon Ash, qui travaillait sur les questions donc de conformisme. Et puis à un moment, il a voulu donc, il a eu l'illumination. Ça a vraiment été une illumination de mettre en place donc cette expérience sur la soumission à l'autorité, c'est-à-dire aller au-delà simplement des comportements de conformisme, mais vraiment de conformer dans des situations plus extrêmes et plus radicales, et donc de mettre à l'épreuve effectivement ces comportements de conformisme. Et il a commencé par mettre en place une expérience test, une expérience pilote avec ses étudiants, qui était assez rudimentaire, avec aussi donc cette mise sur le pour la même idée, c'est-à-dire de tester au fond effectivement l'obéissance d'individus à des ordres qui consisteraient à envoyer des décharges électriques, mais sous une forme plus rudimentaire. Et dès cette première expérience, il s'est aperçu que les résultats étaient contraires vraiment à ce à quoi il s'attendait. C'est-à-dire qu'au fond, il s'attendait à ce que l'expérience ne marche pas et que l'ensemble des individus désobéissent s'ils étaient contraints de d'envoyer des décharges à des personnes qui, tout à fait innocentes et simplement par obéissance aux ordres. Et là, donc, il s'est dit qu'il fallait vraiment poursuivre à une toute autre échelle cette expérience et ces comportements tout à fait surprenants qu'il avait découverts.
Je pense qu'il faut même peut-être lire tout simplement ce qu'on appelle la question centrale de recherche, peut-être, hein, ou le protocole qu'il évoque, vous le dites au tout début de votre préface, hein, je le cite, hein, « Je me demandais si des groupes pourraient exercer une pression telle sur une personne qu'elle exécuterait un acte, peut-être en agissant de façon agressive envers une autre personne, par exemple en lui administrant des chocs électriques sévères. Jusqu'où une personne serait-elle prête à aller si elle était placée sous les ordres d'un expérimentateur ? C'était un moment incandescent. »
Oui, il a vraiment eu l'illumination. Parce que vous savez, enfin, on va y revenir, mais cette expérience a posé des questions, éthiques ouais, très profondes et très graves, etc.
Alors, pardon, il y a des vrais effets de contexte. Vous le dites bien dans la préface. Cette expérience, elle ne vient pas à n'importe quel moment. Elle s'inscrit dans un contexte, y compris personnel, il le dit d'ailleurs, oui. Milgram, par rapport à sa psyché personnelle. Il faut expliquer ça, je pense.
C'est-à-dire que, effectivement, du fait de ses origines juives, son intention, c'était... Alors, il l'explique dans « Soumission à l'autorité », pas dans cet article-là, mais son intention était, au fond, de comprendre comment l'Holocauste avait été rendu possible, sur la base de l'idée... Très juste d'ailleurs que sans la participation de citoyens ordinaires et au fond des Allemands ordinaires, l'extermination des Juifs d'Europe n'aurait pas pu être mise en œuvre, qu'il fallait la participation des individus. Un des auteurs, par exemple, qui cite un des auteurs et des grands historiens de l'Holocauste, qui cite Milgram, donc c'est Christopher Browning dans un ouvrage magnifique.
Voilà, que j'ai amené.
Voilà, c'est ça. Donc, et Christopher Browning est un historien américain qui a écrit ce livre admirable. Il s'appelle « Des hommes ordinaires, Ordinary Men ». Très bien traduit d'ailleurs en français, avec une très très bonne traduction en français. Et le sous-titre, c'est « Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne », qui fait le récit donc, des exécutions dans des conditions absolument effroyables.
Ce qu'on appelle les Einsatzgruppen.
Voilà, alors, oui. Enfin, c'est ça. Ça a commencé par ça, de 38 000 juifs dans des conditions tout à fait effroyables. Et ensuite, de la déportation de 45 000 autres à Treblinka. Bon. Et Browning ne se contente pas de faire le récit de ces faits, il essaie de comprendre, ce qui est assez rare chez les historiens, et il cite Milgram, mais il cite d'ailleurs une autre expérience qui est beaucoup moins connue, que j'avais analysée dans le premier ouvrage, donc où j'avais parlé de Milgram, d'un livre qui s'appelait donc ainsi « Fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien », donc là j'avais traité déjà de Milgram. Mais ensuite de l'autre expérience qui elle est très peu connue en France, qui est l'expérience de... Philippe Zimbardo, la Stanford Prison Experiment, l'histoire d'une prison factice donc, qui a eu lieu à l'université de Stanford. On pourra revenir sur ça. Et donc, lui, il cite ça. Et de fait, Milgram voulait donc effectivement comprendre comment, comment ces actions avaient été rendues possibles par la participation d'individus dont il n'y avait pas lieu de penser qu'ils étaient des assassins, des meurtriers, etc., mais qui ont été mis dans des conditions telles. Et ça, c'est un point important parce que, alors on va y revenir probablement, mais Milgram, par exemple, cite donc la notion d'homme ordinaire. Les sujets de l'expérimentation Milgram sont des gens ordinaires.
Il faut que vous nous expliquiez, peut-être tout simplement, en quoi consistait l'expérience, précisément. Parce que si l'expérience est connue, il faut peut-être revenir sur son protocole et son déroulement.
Elle est connue, mais elle n'est pas connue dans le détail parce qu'en fait, c'est une expérience qui a fait l'objet de 18 variations avec des taux d'obéissance tout à fait différents. Donc en fait, on ne peut pas dire simplement qu'il y a une espèce de constante. Il n'y a pas du tout de constante. Et ça, c'est un aspect très important. Mais donc après avoir mis en place effectivement cette expérience pilote, il va recruter à peu près un millier de personnes appartenant à tous les milieux de la société et composées de... un tiers de femmes. Je dis un tiers de femmes parce que je pensais, moi, que d'après les données que j'avais, qu'il y avait très peu de femmes qui avaient participé à cette expérience. Il se trouve que j'ai rencontré il y a très peu de temps, quelqu'un qui a fondé un énorme groupe universitaire en France, mais qui a été, qui était à Yale au moment où Milgram faisait le récit dans les années 63-64. Il a assisté aux premières recensions de cette évidence qui, à l'époque, n'était pas du tout aussi connue qu'elle ne devait l'être par la suite. Et c'était très intéressant de savoir, et j'ai appris des choses que je ne savais pas. Par exemple, et qui ne sont pas dites, par exemple, qu'il y avait un tiers de femmes. Il y avait un tiers de femmes, mais beaucoup plus que ce qu'on pense généralement. Donc il recrute effectivement dans tous les milieux de la société par une petite annonce dans les journaux, et aussi en faisant du départ par courrier, enfin bon, peu importe. Donc à peu près un millier d'individus pour participer à l'expérience. Et l'expérience va se dérouler entre août et septembre 61 et le 26 avril 62, au moment même où aura lieu le procès Eichmann. Ce qui est tout à fait étonnant, et je reviendrai sur la relation entre Milgram et Hannah Arendt et la thématique de la banalité du mal, parce que ça, c'est un point très intéressant. Donc, ils recrutent effectivement 1000 personnes, et chacun d'eux est reçu donc, dans ce laboratoire. Il est accueilli et présenté donc, aux complices de l'expérience, un expérimentateur qui est un homme à peu près d'une trentaine d'années, assez... désagréable, assez déplaisant, enfin bon, austère, etc. Et puis l'autre complice de l'expérience qui va être donc l'élève à qui les électrochocs vont être envoyés, qui est un personnage débonnaire.
Le premier est un scientifique, enfin il est présenté comme un scientifique.
Il est présenté comme un scientifique, c'est ça. Il est accueilli, donc Milgram reçoit les gens, il présente le scientifique revêtu d'une blouse blanche, etc., qui va conduire l'expérience, et puis l'élève. Et ils ont été recrutés, oui, enfin... Tous les détails, évidemment, sont importants. Ils ont été recrutés pour participer à l'expérience sur l'apprentissage, oui, et la relation entre l'apprentissage et la sanction, sur la base de l'idée que la sanction développe les capacités d'apprentissage. Et au moment où ils sont reçus, on leur apprend, à chacun d'entre eux, qu'ils vont envoyer une sanction. Mais que la sanction, ce qu'ils ne savaient pas, va consister à envoyer des décharges électriques. À ce moment-là, on aurait pu s'attendre effectivement à ce que les sujets refusent. Nous, on est là simplement pour partir une expérience sur la mémoire et à la sanction, très bien, mais personne ne nous a dit que cette expérience va consister à envoyer des décharges électriques. Et le sujet est amené devant là, dans la pièce où va se trouver l'élève, qui est sur une chaise avec des électrodes qui sont posées pour bien lui montrer que l'expérience est réelle. On lui envoie une décharge de 45 volts, etc. Et puis il est mis devant la console, qui est une console factice, avec donc des manettes qui vont de 15 volts à 450 volts et avec des indications de la gravité des chocs qui vont être envoyés. À ce moment-là, ils sont déjà pris au piège de la situation. Ils n'ont même pas commencé. C'est terrible. Ils n'ont même pas commencé l'expérience, que déjà le piège s'est en quelque sorte refermé sur eux. Il n'y en a pas un seul qui a dit à ce moment-là, c'est hors de question que je participe à cette expérience.
Pardon, Michel, ils s'imaginent qu'ils ont été tirés au sort, hein. Et que le plastron, si je puis dire, le comédien qui va jouer le vis-à-vis, est comme eux, pareil, et que on a fait un faux. En fait, il y a un faux tirage au sort, bien sûr. Oui. Et il s'imagine aussi que les rôles auraient pu être inversés, c'est-à-dire qu'ils auraient pu se retrouver à la place de celui qui allait prendre les décharges électriques.
Oui, bien d'accord. Hein. Exact. Oui, c'est exact.
C'est important parce que je veux dire, le bourreau aurait pu être victime.
Le bourreau a pu être victime. Effectivement, on distribue les rôles, vous avez raison, on distribue les rôles, mais les dés sont pipés. En tout cas, à ce moment-là, et donc effectivement, celui qui a été... il va se retrouver effectivement dans la position donc, de l'élève, et il se retrouve donc devant cette machine. Encore une fois, ce qui est très important pour comprendre cette expérience et pour comprendre la suite de l'expérience et pour comprendre ce qui paraît incompréhensible et ce qui pour les organisateurs de l'expérience et pour le Milgram lui-même était complètement inattendu et totalement contraire aux attentes. Par exemple, ils avaient interrogé des psychiatres sur la propension d'individus, quelle serait la propension d'individus à envoyer des décharges maximales de 450 volts en pareille circonstance. Les psychiatres avaient dit, mais ça ne va pas marcher. Il n'y aura que 0,1 ou 0,2% des sujets qui vont accepter. Milgram pensait que il pensait que les sujets allaient se comporter comme des sujets responsables, conscients de leurs actes, etc. Et donc, ils allaient désobéir. C'est ce qu'ils pensaient. C'est ce qu'il dira par la suite sur le caractère, lorsqu'on mettra en cause le caractère éthique ou non éthique de son expérience. Et donc, ça, c'est. Il a créé une dramaturgie, si vous voulez, effectivement. Tout à fait saisissante, extraordinairement, extraordinairement vraisemblable. Et c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit, si vous voulez. Dans cette expérience, il faut se rendre compte que c'était une scène, un huis clos, si vous voulez, absolument dramatique. Et que ce qui va se passer est une vraie dramaturgie, si vous voulez. Enfin, doit être compris dans sa dramaturgie. Pas d'un point de vue simplement extérieur du spectateur moral qui a des principes et qui est scandalisé par ces comportements-là. Parce qu'on passe complètement, si vous voulez, à côté de l'expérience psychologique. Il faut avoir vraiment une espèce de vision phénoménologique de ce qui a été vécu par ces sujets. Et dès lors, effectivement, qu'ils ont accepté de participer à cette expérience, alors, effectivement, ils ont été pour un nombre considérable d'entre eux jusqu'au bout. Alors, il y a des variations très diverses, et les variations sont très importantes, parce que les taux d'obéissance, en effet, ont varié selon les situations.
Pour bien comprendre ces variations, vous dites 17 situations, 17 variations.
18 même,
oui. 18. Mmh. On a mis parfois le soi-disant élève qui devait répondre aux questions de mémoire en présence directe, physique, de l'interrogateur qui était l'individu... qui servait en fait d'agent pour savoir jusqu'où il pouvait aller. Mmh. Celui qui allait envoyer les décharges électriques voyait sa victime entre guillemets. Parfois, il était derrière une cloison. On entendait du bruit, etc. Donc, il y avait toute une série de situations différentes pour voir finalement et pour essayer de mesurer quels pouvaient être les facteurs de différence de situation en fonction de la proximité ou non de la victime.
Les quatre premières expériences, les quatre premières expériences sont l'expérience qu'il a appelée l'expérience dite de la proximité. En fait, dans la première expérience, le sujet est dans une pièce et l'élève est dans une autre pièce. Et il n'entend pas les réactions. Et donc, il n'entend pas les réactions de l'élève. Et simplement, quand il voit que chaque fois qu'il se trompe, parce que c'était... Il entend simplement ses réactions, mais pas ses hurlements et ses réactions. Chaque fois, il envoie des décharges supérieures. Mais il n'entend pas. Simplement, à un moment, à 300 volts, quelque chose comme ça, l'élève tambourine contre la porte. Et simplement, il s'est dit à ce moment-là, il y a un phénomène psychologique qui se passe. C'est que si les individus peuvent éventuellement obéir à des actes et au fond faire souffrir un innocent, mais dès lors qu'ils ne sont pas conscients, qui ne perçoivent pas de façon immédiate, effectivement, leur réaction, il y a une espèce de distance et d'inhibition et d'absence de représentation des conséquences effectives de leurs actions sur les personnes concernées. Par exemple, c'est un point très, très important. C'est un point très important, cette distance entre l'exécuteur ou quelqu'un qui agit et les conséquences effectives de ses actions. Dès lors, effectivement, qu'il ne perçoit pas ce que l'autre éprouve de façon effective. Au fond, il peut se comporter de façon tout à fait obéissante et tout à fait sans que ça pose en quelque sorte effectivement des tourments de conscience. Ça, je reviendrai sur ça parce que par exemple, il y a un cas historique tout à fait saisissant qui est le cas du pilote qui a
Paul Tibet qui a lancé la bombe sur Hiroshima.
La bombe sur Hiroshima, c'est le responsable de la météo et qui s'appelait, alors lui il avait un autre nom qui s'appelait Claude Heatherley, et il y a une je vous raconterai ensuite cette histoire parce que c'est comment il a vécu ça, quand ce pilote s'est aperçu des conséquences effectivement du largage de la bombe sur Hiroshima, et comment il a réagi à ça, dès lors qu'il s'en est rendu. Mais en tout cas, le premier test, c'était de se dire, donc il n'était pas présent, si vous voulez, dans la salle. Et dans la deuxième variation, là, il entendait. Alors, dans la première variation, les taux d'obéissance, 450 volts, c'était les deux tiers, à peu près 62,5%.
65%, oui.
Donc, les deux tiers ont envoyé des charges maximales, mais ils n'entendaient pas les réactions. Et dans la deuxième variation, qui est au fond l'expérience test, là, ils l'entendaient. Donc la personne qui se mettait à gémir, qui se mettait à hurler, qui se mettait à pousser des cris d'agonie, qui suppliait que l'expérience s'arrête. Et ils se sont dit à ce moment-là, là, ça va vraiment faire varier les taux, que ce n'était pas possible d'entendre la personne hurler, supplier, que ça continue. Or, le résultat a été le même. quasiment, 62,5%. C'est-à-dire qu'il était dans une autre pièce, mais il entendait les réactions. Dans une troisième variation, c'était plus invraisemblable, parce qu'il était dans la même, il était dans la même pièce, et là, les taux ont un peu baissé, mais ça continue, ça, il restait extraordinairement élevé.
40%, 312 volts.
Voilà. Et la troisième variation est encore, et la quatrième variation est plus effrayante parce qu'il devait prendre la main de l'élève et la poser sur la plaque sur laquelle les décharges étaient envoyées. Et là, les taux restaient relativement élevés, en tout cas bien plus élevés que ce qui pouvait être attendu. Après, il y a eu effectivement beaucoup de variations. Il y a eu 10 heures. On ne va pas nécessairement entrer dans toutes les variations, mais par exemple, lorsque il y a eu des taux extrêmement bas, mais aussi des comportements très intéressants parce que, par exemple, dans une des variations, l'expérimentateur sortait de la pièce et il donnait les ordres par téléphone. Et là, les sujets ont adopté une stratégie tout à fait étonnante parce qu'ils disaient qu'ils envoyaient les décharges. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous envoyez les décharges ? Les gens disaient oui. Mais en fait, ils ne les envoyaient pas. Donc, ils ont adopté des comportements à la fois d'obéissance et de contournement et de comportement de fuite.
Et de complicité avec la victime.
Et de complicité avec la victime. Et parce que ce qui est très important, évidemment, dans cette expérience, c'est que les sujets obéissants n'obéissaient pas du tout de façon mécanique. Ils éprouvaient, l'élève, bien sûr, témoignait de la souffrance, bon, qu'il éprouvait par les décharges, mais l'élève lui-même témoignait d'une vraie souffrance psychique, mais d'une vraie souffrance éthique, c'est-à-dire qu'ils étaient, ils refusaient, ils posaient des questions, ils se mettaient à suer, ils se mettaient à éprouver toutes sortes de symptômes, si vous voulez, d'angoisse et d'angoisse psychique réelle, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout simplement des mécaniques comme ça qui obéissaient de façon purement passive à des ordres qui leur étaient donnés. Ils éprouvaient une véritable douleur par rapport à ça.
Ils obéissaient à quoi ? Ils obéissaient, ceux qui ont infligé les décharges électriques, y compris, comme on dit, létales, avec donc potentiellement le risque de faire mourir. Et je crois que les comédiens qui jouaient les victimes simulaient la perte de conscience approfondie, etc. L'obéissance était à quoi ? C'était à l'expertise ou à l'autorité ?
Ah, ça, je reviendrai sur ça, parce que effectivement, lui-même, ce qui est très frappant, c'est que quand je dis c'est un piège qui se refermait sur tout le monde, qui s'est refermé sur les expérimentateurs eux-mêmes, personne ne s'attendait au résultat. C'est-à-dire qu'effectivement, l'expérimentateur, qui était donc effectivement un complice, qui était un complice, mais qui n'était pas un étudiant, c'était quelqu'un que Milgram avait recruté pour participer à cette expérience, mais qui avait un travail en biologie, je crois, etc. C'était pas un étudiant. Et l'autre non plus n'était pas un étudiant, parce que lui, il avait pas une trentaine d'années, et l'élève avait une quarantaine d'années, 45 ans, c'était un homme démonaire, etc. Donc c'était pas des étudiants. Dans l'expérience pilote, il y avait des étudiants. Mais là, c'était pas des étudiants, c'est des gens qui l'avait recruté pour participer à cette expérience. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement, l'élève à qui on dit, effectivement, pour revenir à ce que j'ai dit précédemment, donc l'élève à qui on dit, effectivement, donc vous avez envoyé des sanctions, ce sont des charges électriques, ils acceptent, mais l'expérimentateur lui-même, qui voit ses résultats, effectivement, et ses comportements, et cette souffrance aussi bien de l'élève que des sujets, aucun n'a protesté et n'a dit « nous ne voulons plus participer à cette expérience ». Et Milgram lui-même, mais ça je reviendrai sur ça, Milgram lui-même, voyant effectivement que l'expérience tournait d'une façon totalement imprévisible et suscitant une souffrance terrible chez tous les protagonistes, en tout cas chez l'élève, puisque c'est le sujet, aurait pu arrêter cette expérience. Et lui-même ne l'a pas arrêté, il a continué, n'est-ce pas ? Personne ne s'est arrêté, ce qui est absolument incroyable, si vous voulez. La situation, c'était en quelque sorte, effectivement, le piège de la situation, c'était effectivement refermé. Lui n'a jamais admis ça, hein, par la suite. Je reviendrai sur la réaction de Milgram, parce qu'il n'a jamais admis qu'il avait été en quelque sorte piégé par cette situation tout à fait dramatique. Donc, alors, par exemple, dans une variation, ils ont essayé de tester l'hypothèse dite sadique. C'est-à-dire les individus, au fond, trouveraient là l'occasion de pouvoir s'abandonner à leur pulsion sadique, de faire souffrir, etc. Donc, dans une des variations, l'expérimentateur sortait de la pièce et disait « Bon, mais chaque fois qu'il se trompe, c'est vous qui enverrez les décharges et continuez l'expérience. » Mais il était absent, il ne donnait plus d'ordre. Et là, l'expérience a complètement capoté. Il n'y avait plus que 5% des sujets qui ont mené l'expérience jusqu'au bout. Donc, ce n'était pas du tout l'hypothèse sadique ou l'hypothèse que nous trouverions là, l'occasion de, etc., qui a été validée. Lorsqu'il y avait, dans une autre variation, par exemple, il y avait l'expérimentateur était remplacé par un élève qui, lui, n'était revêtu d'aucune autorité. Et l'expérience capotait complètement. Plus personne n'obéit, il n'y avait plus que 10% d'obéissance. Je laisse de côté l'hypothèse sadique, hein, mais là, c'était 10%. Alors que inversement, lorsqu'il y avait deux experts, ou alors lorsqu'il y avait un conflit entre deux autorités qui étaient reconnues de rang égal et de légitimité égale, là, l'expérience capotait également. Ou bien, lorsqu'il y avait deux autorités qui étaient, au contraire, qui se conjuguaient, en quelque sorte, pour donner les ordres, alors là, le taux d'obéissance montait jusqu'à 90%.
Et, pardon, un autre élément qui est tout à fait intéressant, lorsque l'autorité était dans le rôle de la victime, c'est-à-dire, en fait, une posture qu'on pourrait qualifier de masochiste, en fait, celui qui doit recevoir les décharges électriques dit à celui qui doit les envoyer, vas-y, envoie-les-moi. Mmh. Là, on est à zéro d'intervention. C'est-à-dire que ça ne marche pas.
Non, non. Voilà. C'est ça qui est extraordinairement, si vous voulez, frappant dans cette histoire. C'est, on ne peut pas en tirer du tout de conclusion générale, si vous voulez. Tout dépend de la situation. Et tout dépend des variables que l'on introduit et vraiment de la situation dans laquelle on se trouve. Alors pour répondre à la question que vous avez posée, ce que Milgram explique, hein, c'est que l'obéissance ne tient pas d'abord à la nature de l'ordre, qu'il soit un ordre, quelle que soit la nature de l'ordre, en réalité, les sujets peuvent y obéir. Ce n'est pas le fait que ce soit des ordres destructeurs, ça peut être des ordres d'une toute autre nature. C'est pas la nature de l'ordre qui compte. C'est le facteur principal, dit-il, c'est effectivement la légitimité de l'autorité. C'est le fait que ce soit une autorité légitime, non pas n'importe quelle autorité, mais une autorité légitime. Et le fait que les sujets percevaient effectivement comme cette autorité légitime. Mais encore une fois, si vous voulez, il faut comprendre, ils sont dans une prestige. Alors, certaines variations ont déplacé, ils ont fait l'expérience dans les sous-sols de l'expérience, et ça marchait aussi bien. Ils ont aussi déplacé à l'extérieur de l'université, et ça continuait de marcher aussi bien. La légitimité n'était pas remise en cause, en quelque sorte, par le lieu où avait l'expérience. Mais quand même, les gens avaient été recrutés, si vous le disiez, étaient là pour quoi ? Ils étaient là pour participer à une expérience scientifique, ils étaient là pour la faire marcher, ils étaient là pour la faire aboutir. Ils n'étaient pas là pour planter l'expérience, ils n'étaient pas là pour la faire échouer.
Ils ne sont pas très payés, je crois.
Ils sont assez bien payés, ah oui. Ils sont payés 4,50 $ de l'heure, ce qui est plus que le salaire minimum, enfin le minimum de l'époque. Non, mais ce n'est pas pour de l'argent, en tout cas.
Pas de là à envoyer une dose létale, quoi.
Non. Non, ils sont là pour... C'est-à-dire, ils sont dans une prestigieuse université, ils participent à une prestigieuse expérience scientifique. Ils sont là pour que ça marche. Ils ne sont pas là pour que ça ne marche pas. Et ce qu'on ne comprend pas, enfin, il y a beaucoup d'aspects qui sont très intéressants, mais c'est que c'est beaucoup plus difficile et même psychiquement difficile de désobéir que d'obéir. Parce que le sujet désobéissant doit vraiment, d'une certaine manière, faire face, si vous voulez, à l'institution, à ce que l'expérimentateur représente, à la situation dans laquelle... Le coût psychique, en quelque sorte, de la désobéissance est beaucoup plus lourd que l'obéissance. L'obéissance est psychiquement beaucoup moins coûteuse. Alors... Donc la question du rapport à l'autorité, la légitimité de l'autorité, c'est une question tout à fait fondamentale. Mais c'est une question tout à fait... Ceci dit, vous savez que l'expérience a fait l'objet d'une réplication à la télévision.
Oui.
En 2010, hein, sur le fameux jeu de la mort.
Avec Christopher Nick.
Et les résultats étaient incroyables, parce que là, ça se place sur un plateau de télévision, où il y a des variations un peu différentes, mais on peut le voir sur YouTube, hein, vous pouvez voir sur YouTube là, les réactions. Et elles sont, au fond, à peu près conformes à ce qu'on trouvait dans l'expérience Milgram. Et là, l'autorité, c'était une présentatrice de télé.
Tanya Young.
C'était absolument incroyable. Oui, c'était, mais quand même, elle représentait l'autorité. Bon, enfin bon. Donc, la question du rapport à l'autorité. Et ce que Milgram explique, c'est que les individus, au fond, se sont placés, disons, dans deux états psychiques ou psychologiques ou phénoménologiques, qu'on peut décrire phénoménologiquement, qui étaient vécus par les sujets comme étant deux états différents. Il y a l'état de ce qu'il appelle l'état agentique, c'est-à-dire les sujets obéissants qui pensaient qu'ils simplement ils étaient là pour participer en quelque sorte à un dispositif scientifique qui devait se dérouler, qui devait s'emblasser, et qu'ils étaient là pour que ça se passe bien, etc. Mais qu'ils n'étaient pas responsables. Ils ne portaient pas la responsabilité de cette expérience. Ils étaient là pour la faire aboutir. Ils étaient un acteur, en quelque sorte, effectivement, de cette expérience, mais ils ne portaient pas la responsabilité. Ce qu'il appelle l'état agentique. Et les autres, au contraire, donc, dont il explique, ils se plaçaient dans ce qu'il appelle l'état autonome. C'est-à-dire qu'ils gardaient profondément la conscience que sans leur participation, mais l'expérience ne pouvait pas, que c'était eux qui envoyaient effectivement les décharges, que s'ils n'avaient pas envoyé les décharges, que s'ils n'avaient pas appuyé sur la manette, alors l'expérience ne pouvait pas aboutir. Mais en réalité, ceux-là, qui ont gardé donc le sens de la responsabilité personnelle, de leur propre autonomie, de leur propre, la conscience de leur propre identité, de leur propre moi, d'une certaine manière, était quand même le petit nombre, n'était pas du tout la majorité, ceux qui ont gardé. Alors, la conclusion, je crois, très importante, si vous voulez, c'est ce qui est très important dans cette affaire, c'est parce qu'on peut avoir une double lecture. Alors, évidemment, vu de l'extérieur, on peut se dire « Ah, mais c'était des salauds !» Mais ça ne nous sert à rien, si vous voulez dire ça. Parce que ce que ça met en évidence, ce n'est pas la méchanceté des hommes, ce n'est pas leur bonté non plus, ben, ils sont ni... Mais d'abord, qu'ils tranchaient, si vous voulez, le conflit. Ils éprouvaient un conflit profond, douloureux, réel, authentique, si vous voulez, entre leur conscience et les ordres qui leur étaient donnés. Il y avait un dilemme et qui les faisait, qu'on peut mettre compte dans ce qu'on appelle, si vous voulez, une véritable souffrance éthique. Mais simplement, ils tranchaient effectivement le dilemme entre la conscience et l'autorité, en faveur de l'autorité et pas en faveur de la conscience. Parce qu'effectivement, trancher en faveur de la conscience, c'est beaucoup plus difficile. C'est être le mouton noir, c'est être le vilain petit canard, c'est être l'emmerdeur de service.
Oui, mais pardon, pour bien comprendre, puisque vous avez tout à fait bien dit au début que Milgram avait été l'élève de Solomon Asch sur le conformisme. Mmh. Les élèves, enfin la population cobaye, là, ceux qui étaient recrutés pour administrer ces décharges électriques, étaient dans l'ignorance du comportement des autres. C'était à chaque fois, en étant dans l'individualisme méthodologique.
Oui, hein. Oui, bien sûr.
Donc, la notion de conformisme, par exemple, de mainstream, on ne peut pas la prendre en compte. Ils ne savaient pas ce que les autres avaient fait.
Non.
Donc, d'une certaine façon, là, quand vous dites résister, enfin, ce que Hirschman appelle exit, quoi, faire exit au lieu de rouspéter, de dire voice, choisir loyalty à l'expérience, ça se fait dans un choix individuel, dans l'ignorance du comportement du reste du groupe, quand même.
Oui, il n'y a pas de comportement. Une des limites de l'expérience Milgram, par exemple, par opposition à l'expérience
de Zimbardo,
c'est que là, il n'y a pas d'effet de groupe et il n'y a pas d'effet de...
Alors que là, par exemple, il y a terriblement un effet de groupe là-dedans, dans l'étude de Browning.
Oui, oui, bien sûr.
Mais ça veut dire que chacun, finalement, se détermine en fonction de ce qu'il croit être la volonté de bien faire, enfin, la nécessité de bien faire pour que l'expérience aille à son...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une interprétation très étrange de la loyauté, parce que c'était une loyauté à l'expérience, c'était une loyauté au dispositif,
à la science.
C'était pas une loyauté vis-à-vis d'eux-mêmes, ni une loyauté vis-à-vis de la compassion qu'ils éprouvaient, qu'ils auraient pu éprouver, qu'ils éprouvaient réellement pour le sujet. Il y a un vrai conflit de loyauté. Ils le résolvaient dans ce sens-là. Mais ce que ça met en évidence, je crois que ce qui est tout à fait fondamental, c'est d'abord au plan individuel et au plan anthropologique, c'est une extraordinaire vulnérabilité. C'est à quel point nous sommes incroyablement vulnérables. Et nous ne sommes pas éduqués à ça. Parce que nous sommes éduqués, et même si vous voulez dans notre tradition philosophique ou notre tradition politique libérale, nous sommes éduqués fondamentalement à quand même autour de cette notion d'autonomie du sujet ou d'intégrité ou d'identité du sujet, d'un sujet fort, d'un sujet qui a des principes, d'un sujet qui doit agir en accord avec ses principes, d'un sujet constitué, si vous voulez, qui a une espèce d'ossature comme ça, que nous sommes, que notre éducation est quand même fondée sur cette idée d'un moi et d'un moi avec une intégrité, une espèce d'identité forte, etc., et qui doit vivre et qui doit agir conformément à ses propres principes et à ses propres règles, et qui est élevé dans cela, que nous élevons nos enfants d'une certaine manière à cela, à agir selon leurs principes, à agir avec une certaine distance critique, avec une autonomie individuelle, et que toutes nos valeurs, si vous voulez, contribuent d'une certaine manière sont centrées sur ces notions-là, sur la notion de sujet, de sujet autonome, etc. Et là, nos catégories volent complètement en éclats, si vous voulez. Elles volent complètement en éclats, parce que ce que l'on voit, c'est l'incroyable et la terrible et effrayante fragilité, si vous voulez, vulnérabilité des individus qui ont des principes, qui ont été élevés, qui ont une identité personnelle, qui sont des sujets, par ailleurs, tout à fait conscients, etc., mais qui s'effondrent. Qui se dépersonnalise, si vous voulez, parce que le phénomène de la dépersonnalisation, c'est pas simplement les victimes qui étaient dépersonnalisées, c'est les bourreaux, d'une certaine manière, qui étaient dépersonnalisés. Pris, si vous voulez, dans ce dispositif tout à fait impersonnel de l'expérience à laquelle ils devaient participer et qui devait se poursuivre parce que c'était le bien en soi. Parce que le progrès scientifique, parce que participer au progrès scientifique, c'est bien et c'est un bien en soi. Et que tout le monde était. Et donc, nous sommes dans le discours, si vous voulez, et qui pour moi est, un des grands discours, un des discours les plus dangereux, c'est le discours de la nécessité. C'est-à-dire qu'il devait, n'est-ce pas, l'expérimentateur disait lorsque le sujet protestait et qu'il ne voulait pas continuer, vous devez constituer l'expérience, nous prenons la responsabilité, vous devez aller. Il y a une espèce de nécessité implacable qui se mettait en œuvre dans effectivement cette situation tout à fait dramatique où ils étaient en quelque sorte effectivement piégés et ne pouvaient que très difficilement s'extraire et au fond revendiquer précisément leur propre identité, leur propre autonomie. Et ça, si vous voulez, cette notion de vulnérabilité est une chose extrêmement éclairante. Ce concept de vulnérabilité est une, et l'expérience de Milgram, aussi contestée a-t-elle pu être sur le plan éthique, a au moins, si vous voulez, cette vertu de nous révéler précisément cette extrême vulnérabilité. Mais du coup, la conséquence, la vraie leçon qu'on doit en tirer, à mon sens, c'est ce que je dis dans l'introduction, c'est une leçon politique. C'est que c'est une vigilance vis-à-vis des institutions. Il ne s'agit pas de dire aux individus, vous devez agir, éduquer. Bon, bien sûr, d'abord, on peut dire que, même du point de vue pédagogique, il faut élever, je veux dire, les enfants même, hein, ou les adolescents, au collège, au lycée, à l'université, à la connaissance de cette vulnérabilité. C'est-à-dire que connaître sa vulnérabilité est en réalité probablement la meilleure arme pour justement ne pas être pris dans des situations comparables, qui sont très nombreuses, parce que ce n'est pas évidemment simplement dans un laboratoire qu'on trouve des situations de soumission à l'autorité et d'obéissance à des ordres que l'on peut considérer comme étant totalement illégitimes, ou en tout cas totalement immoraux, ou contraires à ses propres principes. Il y a d'innombrables situations bien au-delà de cette situation particulière. Donc déjà, la prise de conscience, effectivement, de nos propres vulnérabilités, que nous ne serons pas des héros. Quand on est jeune, par exemple, on pense toujours qu'on sera résistant. Comment est-ce qu'on pouvait être collaborateur? Comment est-ce qu'on pouvait accepter? C'est évident, n'est-ce pas? C'est toujours évident rétrospectivement, mais dans la situation, c'est pas du tout évident. Ce qu'il faut faire n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident ce qu'il faut faire. C'est toujours à la faveur d'une illusion rétrospective, n'est-ce pas, que l'on sait que les autres ont mal agi et que d'autres ont bien agi. Ça, c'est toujours une illusion. Mais dans la situation, les choses sont beaucoup moins claires. Et donc l'intelligence de la situation et le discernement de ce qui est en train de se passer, en réalité, est une vertu du jugement pratique qui n'est pas du tout évident à avoir. Donc éduquer déjà, effectivement, les enfants à ce qui peut se passer dans des situations semblables, et être conscient, non pas donc de notre capacité, de notre propension naturellement à résister, à protester et à nous comporter comme des êtres libres, responsables, en accord avec nos principes moraux, etc., mais au contraire à renoncer à tout ça, et que c'est bien plus ça qui va se passer, et que ça, c'est une affaire d'éducation. Par exemple, en France, aux États-Unis, les élèves connaissent l'expérience Milgram. En Allemagne, ils connaissent assez bien l'expérience Milgram. En France, ils ne la connaissent pas du tout. Elle n'est pas enseignée, par exemple. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être enseigné au lycée, qui devrait être enseigné au collège, au lycée, à l'université. Que ça devrait faire partie, si vous voulez, d'un bagage pédagogique minimum dans une société démocratique. Parce que là, ça pose vraiment une question, si vous voulez, qui est une question au cœur même des sociétés démocratiques et de l'éducation du citoyen. Et donc, ça commence par ça. Mais la leçon, ensuite, est une, donc c'est une leçon anthropologique qui met en évidence, effectivement, cette vulnérabilité humaine. Alors, cette notion de vulnérabilité humaine, elle n'est pas constituée, si vous voulez, dans la, dans, dans la pensée intellectuelle, dans la pensée philosophique, etc. Il n'y a, pas cette notion de vulnérabilité. Ça n'existe pas, si vous voulez. La, psychologie sociale apporte ici un enseignement et un apport, pas seulement conceptuel, mais empirique, mais très profond, que la philosophie peut, si vous voulez, qu'elle doit s'emparer de ce que, de ce que cette expérience de psychologie sociale nous apprend. Même au plan strictement humain ou au plan individuel, en mettant en évidence effectivement cette vulnérabilité, et qui n'est pas la vulnérabilité des autres, qui est notre propre vulnérabilité, qu'on peut s'effondrer, si vous voulez, qu'on peut être pris au piège de circonstances, et donc il faut d'abord le savoir.
Pardon, parce que justement, depuis, après la Shoah, avec des témoignages aussi remarquables que Primo Levi, aussi bien dans Si c'est un homme que dans Les naufragés et rescapés, Primo Levi a mis en évidence la fameuse zone grise, c'est-à-dire cette partie de l'individu qui est une partie, on pourrait presque dire, un point d'ombre absolu, hein, où on se rend compte que, Primo Levi le dit, hein, et le montre, mais il peut y avoir du côté des victimes, des postures ou des attitudes qui ont été aussi des attitudes de bourreaux momentanément. Donc, on sait quand même que l'humanité n'est pas dans une situation de manichéisme quand même.
Oui, oui, ça c'est sûr que cette notion de zone grise, en effet, effectivement, par exemple, dans les ouvrages de Primo Levi, on connaît Si c'est un homme, on a moins lu cette admirable ouvrage, effectivement, qu'il écrit à la fin de sa vie, qui s'appelle Les naufragés et les rescapés, qui est une analyse extrêmement profonde et assez terrible, effectivement, sur cette notion de zone grise. Mais quand même, en tout cas, la notion et le concept de vulnérabilité, et de vulnérabilité plus précisément, de vulnérabilité situationnelle, de vulnérabilité aux situations, constitue vraiment un apport intellectuel de première, de majeur, absolument majeur, dont on doit tirer, si vous voulez, toutes les conséquences. Et là, en effet, la psychologie ne peut pas, la philosophie ne peut pas tirer ça d'elle-même. Elle est vraiment éclairée, si vous voulez, par ce que la psychologie sociale nous apprend, mais pour réinvestir, effectivement, ce qui est d'abord une expérience empirique, pour ensuite, effectivement, en tirer toutes les conséquences, mais pas seulement spéculatives et intellectuelles. Mais la deuxième mais l'autre aspect, c'est pas simplement un aspect personnel ou individuel, qui est important, bien évidemment. De la conscience, simplement, de la conscience de notre propre vulnérabilité, de notre propre fragilité. La leçon la plus importante, à mon sens, est une leçon politique, c'est-à-dire une vigilance à l'endroit des institutions et des institutions hiérarchiques qui sont structurées sur des rapports d'autorité et d'autorité qui peuvent effectivement s'exercer véritablement à l'encontre de la conscience individuelle et exiger des individus et donc créer une véritable souffrance à la fois de légitimer effectivement des actes de destructivité de quelque nature qu'ils soient et conduire les individus à une extrême souffrance. Bon, et que ça c'est une question politique et que c'est une affaire de vigilance politique. Or, la question de la vigilance, c'est-à-dire que nous devons exercer à l'endroit des institutions une véritable vigilance critique, un peu à la manière de ce que, disons, une espèce de contre-démocratie, si vous voulez, que ce n'est pas une affaire de contre-pouvoir. C'est pas une affaire de contre-pouvoir, ça. C'est pas qu'il doit y avoir simplement des contre-pouvoirs, qu'il doit y avoir vraiment une vigilance des citoyens et des acteurs des institutions et des institutions hiérarchiques à l'égard de ces institutions. Prenez l'exemple de l'école, par exemple. Moi, ma fille m'a raconté un jour un professeur qui humilie les élèves. Et je lui ai dit, écoute, bon, évidemment, c'est inacceptable qu'un professeur... Elle ne peut rien faire. Dans un collège, les élèves ne peuvent rien faire. Je lui dis, vous devez... La solution, tu ne vas pas, toi, simplement affronter le prof et t'exposer ça. Vous sortez tous. Vous sortez tous de la salle. Vous dites, ce n'est pas admissible, on sort tous de la salle. Elle dit, ce n'est pas possible de faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est tout à fait inadmissible qu'un élève, qu'un professeur... je dis bien, il y a une crise de l'autorité dans l'école, ok, mais il y a des formes d'autoritarisme qui sont tout à fait inacceptables. Donc les élèves devraient avoir le droit de pouvoir sortir collectivement d'une salle de cours lorsqu'un professeur se comporte de cette façon, sans s'exposer effectivement à des sanctions, mais qu'il y ait une explication, d'une certaine manière, une justification possible, enfin une discussion possible sur ce qui s'est passé, pourquoi ils ont réagi comme ça. Ça n'existe pas. Donc ça commence à l'école, par exemple, où ces comportements d'obéissance, si vous voulez, où les élèves doivent encaisser, obéir, accepter. Ils n'ont aucune instance, aucune possibilité. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'instant. Et c'est très important, l'école, n'est-ce pas ? Cet apprentissage, je veux dire, citoyen, d'une certaine manière, si vous voulez, qui n'est pas une obéissance inconditionnelle. Les élèves ne peuvent pas. Ce simple exemple-là. Bon, et je ne dis pas de ce qui se passe dans les entreprises, parce qu'il se trouve évidemment que la véritable application de l'expérience Milgram, c'est ce qui se passe dans les entreprises. Parce que c'est là où, bien évidemment, les choses se jouent. Ce n'est pas dans le laboratoire de psychologie sociale de l'université de Yale dans les années 60. C'est ce qui se passe dans le monde clos de l'entreprise où il y a des trucs. Allez enseigner Milgram dans les écoles de management.
Est-ce que c'est absolument ignoré en France ou à l'étranger ?
En France, en tout cas, dans aucune grande école, il y a dans les formations de management, il y a une place centrale qui serait laissée à cet apprentice-là, une conscience des dangers inhérents précisément aux structures d'autorité. C'est comme si c'est-à-dire que les institutions ne mettent pas en place en quelque sorte les mécanismes d'autorégulation et de vigilance qui seraient de nature à développer une espèce d'instance critique en leur sein. Ça n'existe pas véritablement. Les institutions, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent que ça marche, elles veulent que tout se passe bien et qu'il n'y ait surtout pas de contestation. Et c'est très étrange, si vous voulez, que dans une société qui est une société démocratique, qui est quand même fondée sur le droit à la contestation, le droit à la dissidence, le droit aux opinions minoritaires, le droit, quand même que la démocratie libérale est fondée fondamentalement sur ce droit à la contestation, à la dissidence, aux minorités qui peuvent s'exprimer, que l'individu, malgré tout, n'est pas un individu soumis, mais un individu autonome, etc. Bon, et qu'il doit pouvoir exercer ce droit individuel vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du pouvoir. Mais les institutions, socialement, ne sont pas du tout organisées autour de ça. Donc il y a une espèce d'écart, si vous voulez, entre des principes démocratiques au cœur des démocraties libérales, et c'est vrai, et des pratiques sociales dans le monde de l'entreprise, des administrations publiques, de l'école, etc. Et c'est pas la peine, là, d'aller regarder ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et dans des situations, si vous voulez, extrêmes. Je crois qu'il y a des situations tout à fait ordinaires où ces mécanismes, effectivement, se mettent à l'œuvre. Et en plus, dans l'expérience Milgram, il n'y avait pas de sanctions. C'est-à-dire que les individus obéissaient. Il n'y avait pas de sanction. Ajoutez là, par exemple, la sanction. Ajoutez à cela la perte de la crainte de perdre son emploi. Mais comment ça marche dans l'entreprise ? Moi, j'ai très souvent parlé, si vous voulez, de ça. Je ne connais pas le monde de l'entreprise, hein, de l'intérieur. Mais les gens viennent et disent mais c'est ce qui se passe. C'est exactement comme ça, avec en plus d'autres mécanismes qui ajoutent, parce qu'il peut y avoir des ambitions, il peut y avoir toute forme de passion mesquine, enfin de calcul d'intérêt qui s'ajoute, etc. Mais là, on n'a même pas tout ça, si vous voulez. Donc imaginez qu'on rajoute toutes sortes d'autres ingrédients et les choses deviennent en réalité pires. Donc ça commence, je crois, effectivement, ça commence par une affaire d'éducation. Et je pense que cette affaire Milgram, ça a eu lieu effectivement en 62, le livre est publié en 74. Il est un peu, mais ça devrait faire partie de notre culture démocratique, de notre culture, si vous voulez, de base, que tout le monde devrait connaître ça, comme on connaît, je sais pas, la Déclaration universelle des droits de l'homme, des choses de base, que c'est absolument fondamental, n'est-ce pas ?
Est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous avez évoqué au début de votre propos, c'est-à-dire la relation avec Hannah Arendt, la concomitance avec le procès Eichmann à Jérusalem, rappeler aussi que la thèse d'Hannah Arendt sur la banalité du mal fait l'objet de vraies critiques et de vraies remises en cause, parce qu'on a documenté aussi, hein, depuis les historiens, ont documenté en particulier la personnalité d'Eichmann. Vous avez vu, je pense, le dernier film de Lanzmann, le dernier des injustes, avec le témoignage de Murmelstein, hein, par rapport à Eichmann, hein, la personnalité d'Eichmann. Donc, en quoi est-ce que... On a dit que Milgram a été d'une certaine façon l'expérimentateur en psychologie sociale de la thèse et de la philosophie développée par Hannah Arendt. Dont on, d'ailleurs, peut-être qu'on est plus chez Hannah Arendt par rapport à Eichmann à Jérusalem, dans son livre précédent, hein, qui est lié à la condition de l'homme moderne, plutôt qu'antérieurement sur le totalitarisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la thèse, quelle est votre analyse, vous, en tant que philosophe, de la thèse d'Hannah Arendt, Et comment est-ce que ça s'articule avec Milgram ?
Alors, première chose, on va laisser de côté, disons, la façon dont Hannah Arendt a travaillé à Eichmann, parce qu'effectivement, ça fait l'objet de contestations, et donc on a une vision plus complexe de l'homme qu'elle en avait. Mais ça ne change rien, quand même, à la pertinence de ce paradigme, au-delà du cas Eichmann. Il se trouve que Milgram, dans « Soumission à l'autorité », cite explicitement Hannah Arendt et dit que c'est une illustration de ce que Hannah Arendt appelle la banalité du mal. Il cite pas Eichmann, mais ce qu'elle appelle la banalité du mal. Ou ce que Browning, dans cet ouvrage admirable, appelle donc le titre des hommes ordinaires, l'ordinaire du mal. Parce que vous savez, la thèse d'Hannah Arendt, c'était... Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que le livre là de la découverte, donc le livre de cet article... Enfin, qu'on a republié, donc enfin traduit et publié, sort au même moment que sort le film sur Hannah Arendt, qui est très bien, qui est très éclairant et pédagogiquement extrêmement...
Je rappelle, là, c'est un film de Margaret von Trotta.
Voilà, consacré. Qui s'appelle donc Hannah Arendt et qui traite donc effectivement du procès Eichmann, mais aussi de la façon de la réception de ses articles dans le New Yorker et de toutes les controverses qui se sont développées à suite de ça, mais pas simplement parce que la controverse n'était pas simplement sur le cas Eichmann et le regard qu'elle portait, la façon de le décrire comme une marionnette, etc. Oui. Mais ça, vous savez, dans la littérature concentrationnaire, définir, ceci dit, les bourreaux comme des marionnettes, c'est quelque chose que l'on trouve bien au-delà de chez Hannah Arendt, dans d'autres textes tout à fait admirables de la littérature concentrationnaire. Mais en tout cas, Milgram cite, lui il dit, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au-delà du cas Eichmann, c'est la banalité du mal. Et ce que dit Hannah Arendt, on s'attend à Eichmann, c'est que toute l'histoire de la philosophie, si vous voulez, quand vous traitez la question du mal, mais quels sont les... Il y a des héros maléfiques, dont c'est Richard III, c'est Iago, c'est, je ne sais pas, c'est César Borgia chez Machiavel, c'est toujours des personnages noirs, c'est-à-dire que ceux qui font le mal doivent... C'est ce que dit Richard III dans l'acte 1, scène 1 de la pièce de Shakespeare. « I am determined to prove a villain », je suis résolu à me montrer un méchant homme. Commet toutes sortes de crimes monstrueux, etc. Mais c'est son choix. Et donc on a toujours, si vous voulez, l'idée que le mal est incarné par des grands héros maléfiques, par des hommes qui ont fait le choix du mal, n'est-ce pas ? Le mot de Pascal, « Nul ne fait le mal si pleinement et si gaiement que quand il le fait avec conscience. » Là, n'est-ce pas, c'est « Nul ne fait le mal si pleinement et si gaiement que... » Et donc nous avons dans notre tradition, si vous voulez, ou chez Dostoïevski, nous avons des grands héros maléfiques, les Stavrogin, les Rogojin, dans l'idiot, dans les démons, des personnages démoniaques, si vous voulez. Nous avons l'idée que commettre des crimes monstrueux ne peut être l'affaire que d'un personnage, que d'un être profond démoniaque qui a fait le choix du mal, etc. Effectivement, comme certains princes machiavéliens, comme certains héros shakespeariens, comme certains personnages de Dostoïevski, et donc notre culture, si vous voulez, était plutôt formée de cette manière. Et c'est ce que rappelle Hannah Arendt. Par exemple, dans Le Vernis fragile, j'ai essayé de raconter l'histoire, enfin, de comprendre, en m'appuyant sur un travail de documentation qui est le commandant administratif de Treblinka.
Franz Stangl.
Franz Stangl. Mais qui pouvait être le commandant de Treblinka, quel était cet homme? Bon, c'est le commandant administratif. Bon. Donc on s'est dit, mais qui est
aussi le Eus,
etc.
d'Auschwitz,
etc. Qui étaient ces hommes? Bon. Ou qui a été Eichmann? Bon. Donc ça ne pouvait être que des hommes, si vous voulez, profondément maléfiques, qui étaient animés par la haine, etc. Et elle dit, mais non, n'est-ce pas, c'est pas ça qu'on a vu. Sans doute était le plus ambitieux qu'elle le dit, sans doute était, et elle ne raconte pas effectivement comment il pouvait être à Budapest, effectivement, qu'il est allé dans les camps, qu'il était à Budapest, qu'il lui-même a organisé la déportation et l'extermination des Juifs en Hongrie. Bon, il y a des choses qu'elle ne raconte pas. Bon, elle en fait un petit, si vous voulez, bureaucrate. Il n'a pas été simplement bureaucrate, donc on est en droit de historiquement réviser. Mais quand même, on a vu un petit homme ordinaire. Un petit homme ordinaire. Et d'ailleurs, dans le film sur Hannah Arendt, il y a des images où on le voit avec ses petits tics, avec son comme dans La Vie des Autres, si vous voulez, ce film admirable, je sais pas, n'est-ce pas, où le admirable. Bon, et cet officier nazi, il est là, étriqué dans son petit homme ordinaire. Et d'ailleurs, c'est ça dans La Vie des Autres, n'est-ce pas, qui fait qu'il bascule. C'est pas parce qu'il lit Kant ou c'est pas parce qu'il lit de la philosophie morale. C'est parce qu'il lit Brecht et qu'il voit, n'est-ce pas, ces individus qu'il est censé surveiller, vivre. qui se disputent, qui s'engueulent, qui font des réceptions, qui font l'amour, je ne sais pas quand, enfin, qui ont une vie, et lui n'en a aucune. Il est un petit homme étriqué, exactement. C'est un petit homme banal qui est un officier, qui enseigne, effectivement, qui pratique la torture, qui enseigne les techniques de renseignement, etc. Mais c'est un petit homme tout à fait étriqué dans son petit appartement minable, etc. Et tout d'un coup, dans le film, c'est ça qui est admirable dans le film de Donner Smart, qu'est-ce qu'il, il découvre des êtres vivants. Et tout d'un coup, il va. Et alors, j'en profite, puisque, parenthèse, parce que c'est important, ça, si vous voulez, qu'est-ce qui fait qu'il va basculer ? Il bascule pas pour des raisons morales. Il bascule simplement parce que sa vie est une vie de mort vivant et qu'il voit des êtres vivants et qu'il va se mettre à protéger. Mais alors, il y a une histoire plus extraordinaire, j'en profite pour vous raconter ça, parce que vous ne la connaissez probablement pas. Donner Smart, quand il a fait ce film, La vie des autres, que vous connaissez, je pense, qui est un chef-d'œuvre absolu. Absolument, il faut absolument voir ce film. Effectivement, l'histoire d'un officier de la Stasi qui est là pour surveiller donc effectivement un acteur, un metteur en scène, un acteur de théâtre et puis sa compagne, et puis qui va se mettre à les protéger. Le film est magnifique, c'est vraiment absolument magnifique, magnifique. Mais il y a une histoire. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a un cas, un seul cas. Et quand on a, je vous racontais juste ça dans le détail parce que c'est enfin, brièvement. La vie des autres donc, a été repassée sur Arte il y a, je ne sais pas, en 2010, quelque chose comme ça. Et suivi d'un documentaire sur un homme qui s'appelle Victor Orekov. Et Victor Orekov, c'est un officier du KGB, qui était un officier supérieur du KGB, qui était chargé donc, de surveiller les dissidents. La surveillance des dissidents et donc de les déporter, de trouver toutes les preuves qui pouvaient ensuite les faire déporter, etc. Et il va surveiller, et donc il est en charge de ça. Et puis il va se mettre à lire la littérature concentrationnaire, il lit l'archipel du Goulag et tout ça. Bon. Et tout d'un coup, cet homme va se mettre à les protéger. C'est-à-dire qu'il va les appeler en disant qu'il y a une perquisition ou qu'ils vont être arrêtés, etc. Il va les protéger pendant quelques années. Et à un moment, cette cellule du KGB découvre, donc il y a une taupe à l'intérieur. Et en torturant un des dissidents, ils apprennent que c'est cet Orekov. Et cet homme, donc, un cas unique dans toute l'histoire de l'Union soviétique et dans toute l'histoire du KGB. Et il a été, donc il a été arrêté. Il était bien évidemment passé devant un tribunal, il y a eu un procès et probablement il craignait donc d'être condamné à mort. En fait, il a été condamné au goulag. Il a passé quelques années, 7 années je crois, au goulag. Après quoi, il est revenu à Moscou et le KGB voulait encore le faire tomber et donc a monté un coup pour qu'il soit fasse l'objet de poursuites pénales parce qu'on avait trouvé un pistolet chez lui. Enfin bon, je passe les détails. Et donc il fait 2 ans de il fait 2 ans de bagne de travaux forcés commis en 1 an. Après quoi, il disparaît. Il disparaît. Il y a un journaliste français qui s'appelle Nicolas Jallot. Il disparaît en 86 et qui apprend cette histoire. Il y avait eu quelques articles dans les journaux à cette époque-là, même dans l'Express, etc. Et donc il fait des recherches. Il va passer 10 ans de sa vie à rechercher cet homme qui avait complètement disparu. Et donc il fait des recherches. Et à un moment, il casse sa tirelire, il casse son compte Codevi et il part pour le rechercher aux États-Unis parce qu'il pense qu'il est aux États-Unis, qu'il a eu des informations qu'il est aux États-Unis. Et il le cherche partout et ne le trouve pas. Et un jour, je passe les détails, parce qu'il écrit un livre qui raconte cette histoire. Il se retrouve dans une petite ville aux États-Unis et il voit donc un homme qui est en train de promener son chien et lui dit Victorovitch ou Victor Vladimirovitch, je ne sais plus quel est son nom patronymique, etc. Et l'autre lui dit Da, etc. Il l'a retrouvé comme ça par hasard. Et il lui dit, mais je vous recherche depuis des années, je veux faire un documentaire sur vous, etc. Il lui dit, non, c'est hors de question, je veux absolument pas. Et enfin, il finit par le convaincre d'accepter donc de parler à la télévision. Et c'est ce documentaire qui est passé. Sa femme ne voulait, la compagne ne voulait même plus. Elle disait, si tu acceptes, je vais divorcer, etc. Et vous savez, ce que cet homme vit dans un petit village, donc il était officier supérieur du KGB. Il a dénoncé, exactement comme dans l'histoire, la vie des autres. Il a effectivement protégé ceux qu'il était censé dénoncer et envoyer dans le goulag. Il est lui-même envoyé au goulag. Il disparaît, il rompt avec sa famille, ses amis, etc. Change de nom. Et vous savez quel métier il fait ? Il est livreur de pizza. Livreur de pizza. Incroyable. Et le type est complètement démoli. Il dit, mais je suis comme une espèce de poisson dans un bocal et j'étouffe, etc. Et après le documentaire, il a encore disparu. Donc il est encore vivant, mais il a encore disparu. Et donc, or, on n'a pas parlé de ce documentaire. C'est incroyable, si vous voulez, vous comprenez. C'est pas normal qu'en France, les journalistes auraient dû s'emparer de cette histoire. Et dire, mais c'est le témoin. Le film, par exemple, La vie des autres, a eu un énorme succès. Mais tout le monde aurait dû dire, mais là, c'est pas simplement une fiction. Ça, c'est la réalité d'un homme, n'est-ce pas? C'est pas Solzhenitsyn, c'était de cette ampleur et de cette envergure-là. Tout le monde aurait dû s'emparer de cette histoire. Tous les journalistes auraient dû dire, mais faire connaître ça. Et pas du tout. Le documentaire a eu un succès tout à fait limité, ça n'a intéressé personne, ça. Et on se dit, mais dans quelle société on vit, si vous voulez, alors que c'est un héros, si vous voulez, mais admirable. Vraiment admirable, n'est-ce pas? Vraiment admirable. Qu'on devrait présenter comme un modèle, si vous voulez. Et cet homme qui a tant souffert, qui vit dans l'anonymat, qui est démoli psychiquement, etc., on devrait l'honorer, le célébrer, si vous voulez. Bon, pas du tout, tout le monde s'en est foutu, ça. C'est incompréhensible, si vous voulez. Et c'est pas loin de l'expérience Milgram. Par exemple, quand il y a eu le jeu de la mort, le jeu de la mort est passé à télévision. France 2 a dépensé 3 millions d'euros, ça leur a coûté un pognon absolument énorme. Toute la presse en a parlé avant que le documentaire ou que l'émission soit diffusée en prime time à 8h30 sur France 2. Ça a fait un flop. Ça a fait un flop. Il y a eu plus de. Il y avait une série télévisée, genre New York Police Department, je sais pas quoi, sur la une. Et il y a eu plus d'audience sur ça. Et donc après, c'était fini. On en a plus parlé. Donc c'est quand je dis c'est une affaire d'éducation, si vous voulez. C'est très étrange parce qu'il y a des résistances incroyables à ça.
Le film Icomica, qui a été fait dans les années fin des années 70, début 80, à lui et qui met en scène pendant à peu près une vingtaine de minutes l'expérience de Milgram, film de Verneuil avec Yves Montand, avec Roger Planchon, avec Denis, a eu une audience assez forte. C'est à ce moment-là aussi que ça devient un peu
une
audience populaire. Quoi.
Oui. Le film a beaucoup contribué
Milgram,
à ça.
Milgram, quand on pose la question « Connaissez-vous un psychosociologue ?», je crois qu'il arrive sixième cité. Donc son nom est connu.
Son nom est connu, mais encore une fois, on connaît le film éventuellement, mais encore une fois, on ne connaît pas le détail. Tout doit être connu, en fait. Toutes les analyses, effectivement, tous les aspects fondamentaux des analyses qu'il développe. Et donc, c'est pour ça que c'est bien que ce livre, par exemple, effectivement, paraisse maintenant et puis qui visiblement rencontre une certaine audience et que les gens, à nouveau, s'intéressent à ça et essayent de regarder de plus près, etc. Parce que c'est d'une actualité absolu, total, si vous voulez. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas pris une ride, si vous voulez, par rapport aux leçons qu'on peut en tirer aujourd'hui.
Et il nous revient de vous remercier. Je vous rappelle que vous écrivez souvent dans la revue Mauss, excellente revue, que vos derniers ouvrages sont pour l'un écrits avec Édouard Husson, le grand historien, ça s'appelle Les Complaisantes, et c'est une réponse, en quelque sorte, au livre de Jonathan Little, Les Bienveillantes. Et puis votre dernier livre, mais peut-être que je me trompe, c'est donc Du bon usage de la torture ou comment les démocraties justifient l'injustifiable. C'est la découverte en 2007. Il n'y en a pas eu de...
Non.
Non, voilà. Et celui-ci, bien sûr, avec la partie...
Il y en avait un autre, mais celui qui est en fait...
Un si fragile vernis d'humanité... 2005 est sorti.
Banalité du mal, banalité du bien. Ça, voilà, c'est
un livre.
Si vous vous intéressez à tous ces sujets, c'est
tout à fait passionnant. Bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci.